Teenager.
Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. Une heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal, 14h, 15h. À tout à l'heure.
Radio J.
Réveillez l'informé qui est en vous.
Écoutez Radio
J. 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J. Liz Goodman.
Bonjour, Liz Goodman avec vous pour un nouveau 10-11 et tout de suite, c'est le journal. Tout de suite, on retrouve Etanit Belaïch. Etanit, bonjour.
Bonjour à tous. 203e jour de guerre contre le Hamas et au nord, un civil israélien a perdu la vie dans des frappes nocturnes du Hezbollah. Il s'agit de Sharif Souad, un arabe israélien originaire du village de Ras Al-Ain. Il travaillait sur un chantier lorsqu'il a perdu la vie dans ses attaques contre la région du Modav. En réponse, Tzal a mené des frappes nocturnes contre le groupe terroriste dans le sud du Liban. Pendant ce temps au sud, l'opération militaire israélienne à Rafah se prépare. Hier soir, l'armée israélienne a massé des dizaines de chars et de véhicules blindés le long de sa frontière avec le sud de la bande de Gaza. De son côté, l'Égypte se prépare à l'opération en relevant le niveau d'alerte dans le Sinaï. Les responsables chargés de questions palestiniennes et israéliennes au ministère égyptien des Affaires étrangères ont reçu l'ordre d'annuler leurs vacances à partir de la semaine prochaine. Les mêmes instructions ont été données au chef du Shin Bet et au chef d'état-major de Tzahal, Herzi Halevi. Les négociations pour la libération des otages se poursuivent. Une délégation égyptienne sera aujourd'hui en Israël. Elle sera composée de hauts responsables égyptiens. En attendant, le Hamas campe sur ses positions, Olivier Granilic.
Le Hamas demande un arrêt de la guerre totale dans la bande de Gaza. Israël exige de son côté que la période de trêve que le Hamas recevra en échange soit plus courte que les 6 semaines discutées jusqu'à présent. Si en avril, Israël était prêt à une trêve de 6 semaines en échange de 40 prisonniers, dans la nouvelle proposition, la trêve sera plus courte. Israël est aussi d'accord d'assouplir sa position sur la question du retrait du couloir de Netzarim, l'une des exigences auxquelles Israël s'était opposé, mais est prêt à présent à changer de position pour arriver à un accord avec le Hamas.
Et la dernière offre israélienne porterait désormais sur la libération de 33 otages et non 20, comme initialement annoncé par les médias, d'après un responsable israélien. Alors que nous sommes toujours sans nouvelles des 133 otages détenus par le Hamas, les terroristes du 7 octobre auront droit, eux, à des visites. Une décision prise hier par le cabinet de guerre israélien. Dans le détail, un juge israélien et 2 observateurs étrangers pourront ainsi rendre visite aux membres de la force Nourba détenus dans les prisons israéliennes. Dans le reste de l'actualité, les répercussions de l'attaque des Mollahs contre Israël. Hier, le Royaume-Uni a annoncé de nouvelles sanctions contre l'industrie de drones iraniens. Sanctions également décidées avec les États-Unis et le Canada. Au total, 4 entreprises et 2 directeurs d'un réseau de sociétés de drones sont visés. Plus largement, le Parlement européen appelle à une prolongation des sanctions contre l'Iran après l'attaque contre Israël. Au chapitre diplomatique, après la visite de plusieurs responsables libanais à Paris, le ministre français des Affaires étrangères entame demain à Beyrouth une nouvelle tournée au Proche-Orient. Il y évoquera notamment l'instabilité au sud-Liban et la situation à Gaza. Il devrait aussi évoquer les propositions françaises qu'il avait portées il y a 2 mois pour désamorcer le conflit à la frontière libano-israélienne, restée lettre morte depuis. Il s'agira de la seconde visite de Stéphane Séjourné dans la région. Aux États-Unis, les sièges antisémites dans les universités se poursuivent. Hier, l'université de Californie du Sud a même dû annuler sa cérémonie de remise des diplômes. Les autorités universitaires américaines craignent que les manifestants pro-Hamas ne perturbent la cérémonie prévue dans 2 semaines. Là-bas, près de 100 personnes ont été interpellées dans la nuit de mercredi à jeudi. Hier, à Princeton, dans le New Jersey, des étudiants anti-israéliens ont été rapidement délogés par les policiers, tout comme à Harvard. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a lui promis de prendre des mesures face à ces mouvements anti-israéliens.
Vous savez, quand vous chassez des étudiants juifs, quand vous empêchez un professeur juif d'entrer dans un bâtiment, quand vous ciblez les gens de cette façon, ce n'est pas la liberté d'expression. C'est du harcèlement qui viole la conduite appropriée. Et pourtant, à Columbia, à Yale, dans tous ces endroits, ces gens font la loi, ils font ce qu'ils veulent. Et les administrateurs, les présidents des universités sont faibles. Ils ont peur et ils ne font rien. Si vous agissez ainsi en Floride, dans nos universités, nous vous montrerons la porte. Vous serez expulsé en agissant ainsi.
Le gouverneur de Floride, hier, enfin France Sciences Po Paris, est toujours bloqué par des étudiants. Une vingtaine d'élèves mobilisés en faveur des Palestiniens ont décidé d'occuper l'un des bâtiments de Sciences Po Paris dès hier soir, 21h. Le comité Palestine Sciences Po, derrière la mobilisation, réclame notamment la condamnation claire des agissements d'Israël par Sciences Po et la fin des collaborations avec toutes les institutions ou entités complices, je cite, de l'oppression systémique du peuple palestinien. Avant-hier, déjà une soixantaine d'étudiants avaient occupé l'amphithéâtre extérieur d'un campus de l'école dans le 7e arrondissement de Paris avant d'être expulsés par les forces de l'ordre.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J. Le 10-11 de Lise Gutmann vous est proposé avec le concours du Centre d'art et de culture et du FSJU. Théâtre, concerts, créations exclusives, rencontres inédites. Tout le programme du Centre d'art et de culture est sur culture-juive.fr. Radio J.
Radio J.
Le 10-11. Le 10-11. Lise Gutmann.
Radio J. Affaires publiques, Alexis Lacroix.
Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, Moadim Les Simcha. Nous avons le plaisir, en ce vendredi, de recevoir une écrivaine, Isabelle Debray. Elle signe Dans l'ombre, aux éditions du Mercure de France. Vous allez tout de suite découvrir de quoi il s'agit. Je crois que c'est une première pour vous, Isabelle.
Ah oui.
Et vous êtes l'auteur, je le disais, d'un récit très pudique, assez elliptique, évidemment tout à fait déchiffrable et compréhensible. Il s'appelle « Dans l'ombre » aux éditions Mercure de France, tout un programme. Alors, c'est vrai que être une femme de l'ombre ne veut pas dire ne pas être une femme qui prend la plume et qui parle à la première personne. Vous parlez à la première personne, bien sûr. Votre récit très pudique, je le disais, elliptique, avec une stupéfiante économie de moyens, n'en est pas moins incroyablement remarquable et efficace. Il célèbre un homme, un grand intellectuel de notre temps, un intellectuel de grande envergure, on pourrait dire de grande envergure internationale. Pourquoi avoir choisi, Isabelle Debray, la forme d'un récit pour évoquer cette affinité élective, aujourd'hui déjà ancienne, dans votre existence?
La vérité, c'est que je ne parle pas d'affinité élective, puisque je ne parle pas de moi. Donc jamais, je veux dire, sauf la première page, et c'est tout. Autrement, le reste du temps, je parle de tous les amours anciens de Régis, qui sont toujours présents, et toujours, puisqu'il est un grand fidèle, avec son infidélité, à travers tous les livres qu'il a écrits.
Alors justement, Isabelle Debray, l'une des particularités de Dans l'ombre, c'est que vous rendez un hommage à ce grand intellectuel, ce grand écrivain français, Régis Debray, mondialement connu, on va y venir. Vous évoquez notamment, dans votre récit, Dans l'ombre, aux éditions Mercure de France, je cite, sa mémoire, sa ténacité, ses engagements. C'est ce triptyque de qualité, sa mémoire, sa ténacité, ses engagements, qui pour vous le définit le mieux sa personnalité, publique, mais aussi peut-être privée, Isabelle Debray.
En tout cas, à travers tout ce qu'il a écrit depuis si longtemps, depuis 1970, son premier livre, ça s'appelait La Frontière, c'était une petite nouvelle. Et jusqu'à aujourd'hui, il est d'une grande ténacité, puisque 70, La Frontière, puis après l'éloge des frontières dans les années 2000, 20 même, je crois. Donc ça, c'est la ténacité. La mémoire, oui, il a une grande mémoire de tout ce qu'il a vécu et tous ses engagements que vous connaissez, même si aujourd'hui, il s'est un peu dégagé, mais de toute actualité politique, sociale, mais qu'il reste très attentif malgré tout.
Ouais. Alors c'est intéressant parce que spontanément, vous m'avez répondu sur la question de la frontière. Vous pensez que c'est un des fils rouges de sa réflexion, réfléchir sur la nécessité des frontières, mais aussi sur la nécessité de les traverser, de les franchir, ce qu'il a fait lui très tôt dans sa vie.
Oui, tout à fait. La frontière, il a beaucoup, beaucoup écrit sur la frontière. Mais je dirais que ses engagements, c'est aussi la religion, c'est aussi la politique, c'est aussi les combats, c'est aussi la révolution. C'est beaucoup de pays qu'il a traversé. C'est, voilà. Donc,
Oui, alors justement, ce qui le caractérise parmi les intellectuels français, vous y rendez hommage dans l'ombre aux éditions Mercure de France, c'est votre mari, chacun l'a compris, et c'est le père de votre fils aussi, on y viendra sans doute. Ce qui le caractérise, c'est un certain internationalisme. Comment est-ce qu'on peut définir justement l'internationalisme de ce jeune homme de la bourgeoisie qui, dès les années 60, rejoint les révolutionnaires latino-américains avec lesquels il ne cessera d'entretenir de durables et fraternelles relations, Isabelle Debray.
Alors, il y a un moment donné, vous m'avez demandé si c'est les livres, c'était parce qu'il a voyagé à travers les livres.
Disons que son savoir du monde est d'abord livresque, mais en même temps, il choisit un jour, à un moment, de le confronter à la réalité. Il va sur le terrain, pour le dire autrement, très jeune, à l'âge de 20 ans.
Oui, mais c'est un livre qui l'a emmené sur ce terrain. C'est Le siècle des Lumières d'Aléro Carpentier. Donc c'est déjà au départ un livre.
Alors on va revenir évidemment sur ses engagements, mais au passage, évidemment, vous le notez sans les nommer, mais il y a évidemment en Amérique du Sud, depuis ces années 60 qui ont été fondatrices pour lui, il y a des amis qui sont dans le paysage intellectuel, on va dire important, du monde latino-américain, du monde méso-américain. On pense notamment à Gabriel Garcia Marquez et à Julio Cortázar. Ils ont compté dans sa vie, c'est le moins qu'on puisse dire, ces deux grands écrivains contemporains.
Tout à fait, ils ont vraiment compté dans la vie, oui, dans la vie de Régis.
Alors, vous le dites.
Pablo Neruda, oui.
Ah, et Pablo Neruda également, donc grand poète chilien communiste. Comment vous résumeriez justement ces amitiés-là?
Régis est un homme très très fidèle, donc toutes ses amitiés sont toujours existantes aujourd'hui. Et il l'a prouvé dans son dernier livre.
De vivant pilier ou de vivant pilier.
Voilà, ou de vivant pilier,
Absolument. Et d'ailleurs, le choix a pu en déconcerter certains, de Gracq à Céline, etc. Bon, il a dit qu'il se centrait sur le domaine français. Alors, il y a une dimension d'universel.
Moi, je suis juste pas jalouse et j'aime les autres.
Alors, justement, j'allais vous poser la question. Voilà, j'allais vous poser la question parce que ça affleure évidemment à de nombreux moments du livre. Vous décrivez ce jeune homme romantique, ce blondinet qui a voyagé à travers les livres. Vous le décrivez aussi comme un grand séducteur, un grand amateur de femmes. Est-ce que, au fond, votre récit peut être lu aussi comme une façon de dépasser, de surmonter, de métaboliser et peut-être aussi de sublimer, au sens le plus freudien du terme, cette question qui se pose naturellement, qui est la question de la jalousie?
Oui. Ouais, moi je trouve que être jaloux c'est dommage, ça nous fait fermer les yeux sur plein de choses.
Et ça fait fermer des yeux sur quoi justement, surtout, Isabelle Debray?
Ouais, surtout ça nous permet pas de connaître bien l'autre, de connaître les autres, de connaître les gens qui l'ont aimé et qui l'aiment encore, parce que quand on aime quelqu'un, on l'aime jusqu'à la fin de sa vie. Et puis être jaloux du passé, ça me semble complètement idiot. Donc voilà. Mais je ne parle pas que de ces femmes, je parle aussi de tous ces voyages. Et Régis, ça fait énormément de voyages. C'est un jeune Français cosmopolite. Hein. Il est allé à la recherche des religions à travers l'islam, l'Asie, la Chine, Israël. Enfin voilà, il a voulu connaître toutes les religions pour un homme qui ne croit pas vraiment, donc c'est quand même intéressant.
Alors justement, c'est vrai, vous avez absolument raison, c'est une curiosité tous azimuts, si je vous comprends bien, qui le guide et qui serait une de ses caractéristiques, de ses marqueurs. Vous y insistez beaucoup dans l'ombre, il y a la dimension de la séduction mais aussi la dimension de la curiosité, une curiosité presque gargantuesque, si vous m'autorisez cette expression. Isabelle Debray, est-ce que vous êtes tombée amoureuse, quand vous l'avez rencontrée, de ce rapport très romantique à sa propre existence?
Non, je vais vous avouer quelque chose, je ne savais pas qui était Régis Debray quand je l'ai rencontré. Moi, je suis tombée amoureuse du petit Jules Debray, je veux dire, je suis tombée amoureuse de l'être. Je ne savais pas du tout qui il était, je ne connaissais pas du tout ça, le Tché, l'Amérique latine, Régis Debray, tout ça, absolument pas. Je ne suis pas du tout une intellectuelle. Donc je suis tombée amoureuse de l'homme, mais voilà, de celui que personne ne connaît finalement.
Quelles sont les qualités justement qui vous ont touché chez lui, Isabelle Debray?
C'est tout ce que je décris dans le livre.
Ouais.
Voilà, sa fidélité, son humour, sa gentillesse, Mais c'est tout ça, c'est tout ça. Moi, j'ai découvert petit à petit qui il était, parce que j'ai tapé son premier livre que j'ai tapé, c'est Loué soit nos seigneurs. Donc, obligatoirement, du coup, j'ai découvert un truc.
Loué soit nos seigneurs, qui est une partie de son autobiographie, hein, pour résumer, ouais. Voilà. Et alors, voilà. À un moment,
livre que j'ai tapé, donc,
alors à un moment, évoquons l'homme, hein, et pas seulement la figure publique que chacun d'entre nous a en tête. Vous écrivez, il ne s'aimera pas, il se rêvera.
Il vous l'a jamais dit, ça? C'est pas quelqu'un qui s'aime, je veux dire, c'est quelqu'un qui aime les autres. Et il s'est rêvé, vu son parcours politique révolutionnaire, on peut dire qu'il a grimpé les marches du pouvoir.
Alors absolument, vous avez absolument raison. Il a un rapport à sa propre personnalité, à sa ça commence par sa voix d'ailleurs. Je crois qu'il a souvent dit « je n'aime pas ma voix », etc. Et donc son amour des autres, sa curiosité pour le monde est, j'allais dire, inversement proportionnelle au peu d'estime qu'a priori il se voue à lui-même. Vous avez absolument raison.
Tout à fait, il a l'estime pour les autres. C'est pour ça, c'est quelqu'un qui sait écouter. Il pose des questions. Voilà, il ne parle pas de lui, il pose toujours des questions aux autres. Ça, c'est formidable, parce qu'en général, les gens, ils parlent d'eux, moi, pas lui.
Et c'est ça qui le rendrait inclassable, pour reprendre le terme que vous utilisez, Isabelle Debray?
Non, inclassable, ça a à voir avec ses livres, parce que Régis, il parle un peu, enfin, je veux dire, il saute d'un domaine à l'autre. Il a fait des livres sur l'art, sur la politique, la médiologie, littérature, roman, religion, il a même fait des pièces de théâtre. Donc, quand vous allez dans une librairie, vous ne trouvez pas Régis Debray dans un domaine. Il faut aller un peu partout dans la librairie pour voir où il est inclassable.
Alors, je rebondis justement sur cette qualification d'inclassable. Alors justement, qu'est-ce qui serait singulier chez lui dans le paysage abondant des intellectuels français du présent comme du passé? Qu'est-ce qui le singulariserait par rapport à tous les autres intellectuels que nous connaissons? En gros, s'il faut faire très vite, hein, de Julien Binda à Luc Ferry, la France abonde en intellectuels et en générations intellectuelles. Ça serait quoi la singularité de Régis Debray?
Je ne sais pas. Je crois que c'est à vous de répondre à ce genre de questions.
Et vous vous êtes pas posé la question?
Non, jamais.
Ah oui, d'accord. Vous essayez d'y répondre alors.
Je ne me suis jamais posé cette question. Je veux dire, elle ne m'intéresse pas du tout. Je veux dire, non.
Je suis désolé. Bon, alors, il est allé.
Non, ne soyez pas désolé, mais je veux dire, c'est vous qui savez répondre à ce genre de questions, pas moi. Moi, je ne suis pas. Non, non.
Il est allé, écrivez-vous, chercher le combat que la vieille Europe ne pouvait lui fournir. Vous faites référence donc à ce début des années 60. Au fond, il étouffe un petit peu dans sa génération normalienne, dans le Paris de l'époque. Nous sommes dans les années 60, gaullisme triomphant, etc. Et
C'était l'époque où on choisissait entre l'Algérie ou l'Amérique latine. Lui, il a choisi l'Amérique latine, mais comme je vous l'ai dit, c'est le ciel des Lumières d'Aléro Carpentier qui l'a amené jusqu'en Amérique latine.
Et qu'est-ce qui lui a plu justement dans ce grand roman d'Aléro Carpentier que nous évoquons depuis tout à l'heure, Le siècle des Lumières, Isabelle?
Je ne sais pas, il faut lui poser la question. Je pense qu'il l'a déjà dit plusieurs fois dans ses livres, mais je préfère ne pas dire n'importe quoi. En tout cas, c'est ce qu'il a porté. Peut-être la beauté des femmes, parce que le livre est très érotique sur les femmes. Je m'amuse.
Le livre est très érotique sur les femmes, et d'ailleurs, vous le notez vous-même à un moment, et c'est intéressant, parce que ça n'est pas l'idée que une partie du grand public peut-être se fait de lui. Vous savez, évidemment, les images sont très réductrices, surtout dans notre époque, hein, où il y a des logos qui correspondent à chaque individu. Et vous le connaissez évidemment par cœur, et vous soulignez sa très grande sensualité. J'allais vous dire, pour le coup, c'est un peu contre-intuitif. Ce n'est pas l'image que beaucoup de nos auditrices, beaucoup de nos auditeurs ce matin sur Radio J ont peut-être de ce grand intellectuel.
Écoutez, c'est dommage, c'est bien d'être sensuel. Mais c'est peut-être plus de l'époque, non? Aujourd'hui, on n'a plus le droit, que les hommes n'ont plus trop le droit à cette sensualité.
Et qu'est-ce qui relie, justement, d'après vous, ce que vous qualifiez de sensualité, à une extrême sensibilité également?
Sensibilité, dans quel sens, Alexis?
C'est probablement quelqu'un dont l'émotivité affleure, en fait. Enfin, en tout cas, vous travaillez dans votre très beau texte à révéler un pan de cet homme qui est aussi son extrême émotivité.
Émotivité, je comprends pas dans quel sens. Non, il est sensible. Il est sensible à tout, à tout ce qui se passe, il a été sensible à tout ce qui s'est passé à travers le monde. C'est pour ça qu'il a écrit tous ces livres-là, qu'il a voyagé un petit peu partout. Voilà, mais je comprends pas la question, non.
Alors, je vais vous citer, vous allez comprendre. D'une désillusion à l'autre, jamais découragé, une affaire de passion et la mélancolie comme une fidélité sans amertume. Les formules sont très belles,
oui,
hein.
Oui. Alors
vous vous souvenez, chère Isabelle Debray, que qualifiant Charles Péguy, qu'il lisait, qu'il relisait en permanence, le critique littéraire allemand, voilà, Walter Benjamin, vous connaissez la formule, parlait d'une immense mélancolie maîtrisée. Est-ce que ce n'est pas un des secrets de Régis Debray que vous percez à jour dans ce récit, son immense mélancolie maîtrisée?
Oui, là, effectivement, ça lui convient très bien, cette phrase, immense mélancolie maîtrisée, qui aujourd'hui débouche sur de l'humour. Il a beaucoup d'humour, Régis. Et vous connaissez la fameuse phrase de Clive Marquez.
Rappelez-la nous.
La politesse, l'humour, c'est la politesse du désespoir.
Mmh. Alors justement, voilà. Vous avez raison.
C'est Régis complètement.
Et alors son désespoir, si désespoir il y a, serait lié à quoi justement, d'après vous, Isabelle Debray, nous parlons de Dans l'ombre, votre livre événement.
Ouais, mais finalement vous me faites parler que de Régis.
Ah mais on parle de vous aussi.
Invité à Radio J, hein, parce que comme ça il vous raconterait lui-même ce qu'il pense de lui.
Ah on parle de vous aussi, hein, vous
non,
savez.
Non, mais de moi, c'est pas, je veux dire, mais il a. Là, évidemment qu'il est désespéré, comment on ne peut pas, et c'est à travers tous ses livres, mais en même temps il a un humour fracassant, les derniers livres, bref, et le démontre, donc le désespoir c'est sa porte, la mélancolie aussi.
Nous parlons de votre livre événement Dans l'ombre, c'est un très beau livre, nous parlons du livre, hein, je vous rassure, chère Isabelle Debray. Alors justement, il y a une carte du tendre complexe, vous vous y inscrivez, vous vous y inscrivez comme une figure, un môle en quelque sorte de stabilité depuis longtemps, vous avez fondé une famille, vous avez un fils, j'allais dire comment ça s'articule dans votre esprit, le fait d'être aussi en quelque sorte la continuation d'une lignée, d'une carte du tendre, hein, que vous évoquez. Alors j'allais vous dire avec une franchise assez déconcertante.
Mais je ne sais pas si je sais pas si je m'inscris dans une continuité.
D'accord.
Mais en tout cas, toutes
d'accord.
les personnes dont
d'accord.
je parle, que je ne cite pas, font partie. Je les adore. Je veux dire, c'est des femmes ou des hommes exceptionnels. Et les voir avec Régis, évoquer le passé, se sourire, être encore amoureux les uns des autres, c'est formidable. On forme tout un bloc. Enfin, c'est non, voilà. Parce que je sais que vous voulez me faire parler de John, mais bon, voilà, il en a parlé dans. Je ne sais pas si vous avez lu ce magnifique livre qui s'appelle Jeunesse du sacré, qu'il a publié en 2012. C'est comme un panthéon et elle en fait partie.
Oui, alors là, vous parlez de la chanteuse Joan Baez. Qu'est-ce qu'elle représente, justement, à vos yeux, à vous?
Une femme formidable.
C'est-à-dire?
Elle est gentille, elle est drôle, elle est spontanée et j'adore les voir ensemble. J'adore.
Oui. Et qu'est-ce que représente Elisabeth Bourgos, puisqu'il y en est longuement question
la
dans votre
récit? La mère de sa fille.
Ouais.
Voilà.
Et pour vous,
de sa fille.
Là, nous parlons de vous, hein. Isabelle Debray. Hein. Qu'est-ce qu'elle c'est représente pour vous aussi?
Pour moi, elle représente la mère de sa fille, sa première épouse. Elle a été de tous les combats. C'est une vraie guerrière et elle est une femme extraordinaire.
Qu'est-ce qui définit justement une guerrière, selon vous?
Toutes ces femmes qui ont combattu pour la liberté.
Vous êtes une guerrière, Isabelle Debray?
Non.
Et pourquoi, justement?
Parce que moi, je suis tranquille chez moi. Je suis une mère, je suis une maman, je ne suis pas une guerrière. Non, je ne sais pas ce que j'aurais été si j'étais née à leur époque, mais non.
Alors, vous dites, c'est intéressant, parce que là, vous voyez, je vous cuisine un peu gentiment sur Radio J. Ce matin, Isabelle Debray, avec votre récit dans l'ombre, vous dites, je suis tranquille chez moi, mais en même temps, vous avez écrit ce récit. Forcément, quand on écrit, on se tourne vers un public d'anonymes, de gens qui vont peut-être vous acheter, vous lire, découvrir votre livre, aussi votre vision de votre intimité. Pourquoi vous l'avez fait, alors?
Pourquoi je l'ai fait? Parce que j'ai eu envie de rendre hommage à toutes ces femmes. Voilà, je trouvais que c'était le moment de le faire, de leur rendre hommage et de dire qu'elles sont toutes des femmes formidables.
Mmh.
même celles qui ne sont plus là aujourd'hui.
Et lesquelles ont particulièrement retenu votre attention dans cette vaste toutes. Constellation de fraternité amicale et amoureuse?
Toutes. Toutes, je n'en mettrai pas une plus haut que l'autre.
Alors je sais que la question vous gêne, mais je vous la pose quand même, parce qu'après tout elle se pose. Il y a évidemment l'évocation aussi, ce beau portrait de la mère de l'écrivain que vous dressez. Il y a une hypothèse, évidemment, que l'on peut quand même développer. Visiblement, celle-ci, assez tôt dans sa vie, l'a confiée à la garde du père. En tout cas, c'est le père qui s'est occupé de lui plus que sa mère. Est-ce que, d'après vous, il faut lire aussi la suite, c'est-à-dire son goût invétéré des femmes, à l'aune, en quelque sorte, de ce sentiment sans doute inaugural, primitif, très très ambivalent vis-à-vis de sa mère, vis-à-vis de l'amour maternel?
Non, Jeannie n'était pas là parce qu'elle était entrée en politique très tôt, comme vous devez le savoir.
Sa mère s'appelait Jeannine Alexandre, hein, voilà.
Ouais. Mais elle a toujours été présente. C'était une mère, c'était une femme formidable, attentive, très généreuse et très gentille. Et d'après, je crois que ses parents ont été très présents pour sa libération en Amérique latine. Mmh. Bon, mais c'est pas eux qui ont fait ça, c'est... Mais voilà. Et donc, j'ai été là. Après, c'est une époque... C'est une époque, on vit plus la même époque, hein. Régis, n'oubliez pas, il est né en 40, hein. Donc,
bien sûr.
1940, 1960, c'était une époque très libre, non?
Ah bah c'est évident, ce n'est plus l'époque d'aujourd'hui.
Alors, par rapport à aujourd'hui,
ouais. Isabelle,
c'est un monde totalement différent.
Isabelle Debré, on a une conversation passionnante sur votre récit, très intimiste, hein, disons-le clairement, dans l'ombre, qui m'a beaucoup plu aux éditions Mercure de France. Nous parlons de vous.
Qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre, Alexis?
Alors, ça c'est intéressant, vous renversez les rôles, mais je vais vous le dire, c'est que vous nous faites pénétrer dans une dimension d'intimité affective qui, justement, complique le portrait, la statue, si vous voulez, qui s'attache à l'image publique de votre mari. Et donc c'est très intéressant, bien sûr, de comprendre le lien qui existe entre la personnalité publique, voyez, et l'homme dans sa dimension de plus grande intimité sensible, vous voyez, qui n'apparaît pas forcément dans l'image publique. Et donc, vous nous offrez un regard justement sur les coulisses, en quelque sorte, d'une image publique. C'est toujours riche, vous voyez, d'avoir ce regard-là. Parce qu'en plus, il est guidé par une extrême bienveillance. Hein, il ne s'agit absolument pas pour vous de vous livrer à on ne sait quel déballage. Vous voyez, donc c'est ça qui est très plaisant dans votre livre. Et puis, vous avez raison, vous rendez hommage à toute cette galaxie de femmes qui l'entourent. Alors, puisqu'il nous reste, en gros, une minute dans cette émission passionnante, chère Isabelle Debré, j'aimerais qu'on dise un mot également de sa fille, Laurence Debré. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Laurence Debré?
Mais je crois que je le mets dans le livre, non?
Bien sûr.
Je fais un portrait.
Un très beau portrait, oui.
Ben voilà. Donc si je fais un beau portrait, c'est que je la trouve formidable. Je trouve que c'est une grande femme, une belle femme.
Elle a consacré d'ailleurs également un récit, on peut dire comparable hein, par certains aspects à celui que vous publiez ces jours-ci. Qu'est-ce que vous en avez pensé de son récit?
Ben écoutez, d'abord j'ai trouvé très bien écrit. Parce que je trouve qu'elle est vraiment douée. Et après, c'est son regard et son histoire. Donc, je l'ai trouvé très bien et très émouvant. Mais je peux pas en dire plus. Je ne connais pas bien. Enfin, si, je la connais, puisque je l'ai connue quand elle avait 20 ans. Donc, obligatoirement, je connais une grande partie de toute son histoire. Mais c'est ce qu'elle a ressenti, elle. Et donc, je le juge pas. Et je trouve que c'est très bien d'avoir écrit ça.
Alors, à l'encre sympathique, vous dessinez évidemment un portrait de l'homme de votre vie, mais aussi de la constellation amicale et amoureuse qui l'a entouré. C'est un portrait aussi, un beau portrait d'intellectuel internationaliste envers et contre tout. Je ne peux que recommander nos auditrices et nos auditeurs de se le procurer, de le lire hein, dans l'ombre. Nous sommes dans un va-et-vient entre, j'allais dire, le privé et le public. C'est ça aussi une des vocations de la littérature, n'est-ce pas, chère Isabelle Debré?
Oui, tout à fait. Mais tout ce que j'ai dit est écrit dans ces livres. Hein.
Ah, bien sûr.
Il suffit de lire ces livres et je rajoute rien, finalement.
Absolument. Et la conversation que nous avons eue ce matin, chère Isabelle Debré, permettra, justement, je pense, à beaucoup de nos auditeurs, de nos auditrices, de découvrir dans l'ombre aux éditions Mercure de France. On vous souhaite, chère Isabelle, une très bonne fin de semaine.
Merci, vous aussi.
Et Shabbat Shalom. Au revoir, Isabelle Dobré.
Au revoir.
Ça, c'est uniquement sur Radio J.
Radio J.
Radio J.
Radio J. Radio J. Le 10-11.
Radio J.
Liz Goodman.
Et demie, Liz Goodman avec vous jusqu'à 11h. Et tout de suite, on retrouve Etanit Belaïch. Etanit, bonjour.
Bonjour à tous. Le Hezbollah attaque une base de Tzal dans la région du Mondov à l'aide de missiles anti-char. Un civil israélien a été tué. En riposte, l'armée a mené des frappes contre la source des tirs. L'opération militaire israélienne à Rafah se concrétise un peu plus. Hier soir, l'armée israélienne a massé des chars et des véhicules blindés le long de sa frontière avec le sud de la bande de Gaza. Une délégation égyptienne sera aujourd'hui en Israël pour reprendre les négociations pour la libération des otages. Hier soir, le cabinet de guerre examinait un nouveau plan de libération d'une trentaine d'otages contre le retour des Palestiniens dans le nord de la bande de Gaza. La flottille de la Liberté, qui prévoit d'acheminer de l'aide humanitaire depuis la Turquie vers la bande de Gaza, a été retardée de plusieurs jours en raison de procédures portuaires à Istanbul. Un nouveau projet humanitaire 14 ans après l'incident de Marmara, au cours duquel 9 agents turcs ont été tués et 10 soldats de Tsahal blessés. Le chef de la diplomatie française entamera demain à Beyrouth une nouvelle tournée au Moyen-Orient. Il devrait notamment évoquer les propositions qu'il avait portées il y a 2 mois pour désamorcer le conflit à la frontière libano-israélienne, restée lettre morte depuis. De Los Angeles à Atlanta, en passant par Chicago aux États-Unis, le mouvement d'étudiants pro-palestiniens grossit d'heure en heure après avoir débuté il y a une dizaine de jours à l'université Columbia de New York. L'université Columbia qui annonce reporter l'évacuation des manifestants sur son campus. Depuis le 15 avril, des étudiants ont planté leur tente sur le site pour protester contre les opérations menées par Israël dans la bande de Gaza. Une vague antisémite qui frappe également la France. Une vingtaine d'étudiants anti-israéliens occupent depuis hier soir un bâtiment à Sciences Po, rue Saint-Guillaume. Ils réclament, je cite, la condamnation claire des agissements d'Israël par Sciences Po. La veille, un autre site de l'établissement avait été évacué.
Les enfants de la République, tous les dimanches sur Radio J à 8h45, au micro de Frédéric Aziza. Ce dimanche,
je recevrai Yvan Attal.
Les enfants de la République, de Frédéric Aziza, c'est tous les dimanches à 8h45, uniquement sur Radio J.
Radio J.
Radio J.
Radio J.
Le 10-11. Le 10-11. Liz Goodman.
Radio J.
Radio J, Kabbalat Shabbat avec le Rav Mevora Zerbib.
Moadim Lissibra. Bonjour à toutes et à tous pour cette émission veille de Shabbat Chol HaMoed, en ce jour de Chol HaMoed. Aujourd'hui, nous sommes le troisième jour du Omer et nous nous préparons pendant cette période de demi-fête de Pessah, eh bien au Shabbat qui est entre ces jours de fête et Shabbat Chol HaMoed Pessah. Alors, je vais commencer avec Moadim Simcha, où on pourrait dire Chag Sameach, que la fête soit dans la joie, et parce que c'est la façon dont on doit se saluer pendant les fêtes. C'est important, le mode opératoire des salutations. D'une façon générale, un jour de semaine, on se salue en souhaitant la paix. Shalom. Shalom Aleichem. La paix sur vous. Et on répond Aleichem Shalom. Voilà, pour pas, toujours quand on répond pas à l'équivalence de ce qu'on nous a souhaité, mais on fait peut-être une petite surenchère où on varie. Shalom Aleichem, la paix sur vous, Aleichem Shalom. Il y a des explications plus approfondies là-dessus, mais je préfère aller plus loin. Quand on est un jour de Shabbat, eh bien, au moment où on se salue, on met déjà au point le jour Shabbat Shalom. Shabbat avant Shalom, comme pour préciser que le centre de notre discussion va avoir être empreinte de la sainteté du Shabbat, va être, on va dire, mêlé à la sainteté du Shabbat. Mais quand on est dans les jours de demi-fête, on se doit d'évoquer que c'est le Moed, Moadim Simcha, Moadim les fêtes pour la joie. Moed, c'est une notion aussi de rencontre. Ouel Moed, c'est la tente d'assignation. Et donc, c'est un moment où on retrouve un moment de rencontre qui est extrêmement important et qui, quand on est dans Moadim et que on va arriver à ce Shabbat, Shabbat Chol HaMoed, ça décuple la force du Shabbat et ça décuple la force du Chol HaMoed à tel point que Shabbat Chol HaMoed va être relié avec des connotations particulières dans les traditions séfarades. Toutes les veilles de Shabbat, on lit le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, qui est considéré comme Kodesh Kodashim, sacro-saint, et qu'il faut savoir lire avec sa dimension de d'allusion, sa dimension qui n'a pas le sens littéral, mais qui a directement un sens recherché, qu'il faut savoir décrypter dans ce texte, qu'il faut pas surtout pas prendre au premier degré. Mais la Megillah de Shir HaShirim, qui est une Megillah, un rouleau, au même titre que la Megillah Esther qui est lue à Purim, la Megillah Techa, les Lamentations de Jérémie qui sont lues à Tisha B'Av, au 9 Av, la Megillat Rout à Shavuot et la Megillat Kohelet, l'Ecclésiaste à la fête de Sukkot, eh bien Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, c'est le livre de la fête de Pessah. Alors dans la tradition séfarade, on a l'habitude de, notamment de lire Shir HaShirim à l'issue de la soirée du Seder. Après la Haggadah, eh bien on lit Shir HaShirim. Dans la tradition ashkénaze, c'est surtout le Shabbat Chol HaMoed ou sur du parchemin. Oui, comme la Megillat Esther, sur du parchemin avec une bénédiction, même la bénédiction de Shekhianou, eh bien la Megillat Shir HaShirim est lue d'après le Gaon de Vilna. Il n'y a pas beaucoup de communautés ashkénazes qui ont encore cette tradition, mais elle, en tout cas elle existe. Et cette dimension de ce cantique des cantiques pour le Shabbat Chol HaMoed Pessah va lui conférer vraiment un côté summum. Alors parmi les prières ou les chants liturgiques qu'il y a donc spéciaux pour ce jour-là, il y a un qui fait référence au sacrifice et que l'on chante avant Asheré, que l'on dit avant de rentrer la Torah, Ka Keli Yitzhak Meir Helfgott.
ולא מינכו ולחכוס ולא פושום ולשלופים ולא
Shabbat Cholamoed, Shabbat de demi-fête, on n'y est pas la paracha de la semaine classique. On ne dira pas donc ce Shabbat la paracha Acharemot, on le consacrera pour Shabbat prochain. Le Shabbat Cholamoed, on lit toujours la paracha qui est tirée du livre de Shemot, dans la paracha Kitissa. Curieux parce que dans ce passage, eh bien c'est le passage, une partie de ce passage est reprise pour être la lecture de la Torah. Tenez-vous bien. Des jours de jeûne. Et oui, quand que ce soit le jour de Tisha B'Av à Mincha, ou le jour, les autres jours, que ce soit le matin ou le soir, le 17 Tammuz, ou le jeûne de Gedalia, le jeûne de 10 Tevet, où on sort la Torah le matin et le soir, eh bien, on lit, alors, pas exactement tout le même texte, mais en tout cas, il y a une grande partie du texte qui est en commun, notamment le passage des 13 attributs divins de miséricorde, Hachem, Hachem, Kel, Rachum et Hanoun, la pièce maîtresse de la prière de Kippour, et que l'on retrouve à la fois donc dans les jours de jeûne et dans le Shabbat Chol HaMoed Pessah. Shabbat Chol HaMoed, c'est la même paracha, que ce soit Chol HaMoed Pessah ou Chol HaMoed Sukkot, les jours de demi-fête de Pessah ou de Sukkot. L'Haftara est issue du livre de Yéhézkel, remarquable sur ce point aussi, puisque pour Sukkot, c'est aussi le texte de l'Haftara est tiré à Sukkot du 38e chapitre de Yéhézkel, alors que pour Pessah, c'est du 37e chapitre de Yéhézkel. Il nous évoque la résurrection des morts, enfin la vision des ossements desséchés. Donc en résumé, pour ce Shabbat, la paracha, donc avec les 13 attributs divins de miséricorde, un deuxième Sefer Torah avec le passage qu'on lit tous les jours des sacrifices additionnels du Moussaf de Pessah. Les sacrifices additionnels qui étaient toujours, c'était 2 taureaux, 1 bélier et 7 agneaux. Tout ça c'était des holotes, c'était des holocaustes, et il y avait en plus de ça un bouc en expiatoire. Voilà, c'était tous les jours, était offert la même chose, alors qu'à Sukkot il y a des différences au niveau des taureaux, du nombre de taureaux qui étaient offerts. Le premier jour c'était 13, deuxième jour 12, troisième jour 11, et etc. jusqu'au septième jour 7, et c'est ce qui va marquer la différence entre les deux jours de demi-fête de Sukkot et les deux jours de demi-fête de Pessah. C'est pour cela que pour la fête de Pessah, une des raisons pourquoi le Hallel n'est pas récité en entier, parce que il n'est pas différent, tous les jours sont les équivalents au niveau des sacrifices, alors que pour Sukkot, comme ils sont différents chaque jour, c'est pour ça qu'il y a le Hallel en entier à Sukkot, mais pas à Pessah. Une autre explication, c'est que le septième jour de Pessah, il y a les Égyptiens qui ont été engloutis dans la mer Rouge, et marqué « Binfol oyifra altismar » dans le livre des Proverbes, quand ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Et donc, il n'était pas convenable de faire le Hallel en entier le septième jour de Pessah, vu l'anéantissement de l'armée d'Égypte dans la mer Rouge. Et on ne va pas conférer au jour de demi-fête un statut supérieur au jour de fête, des derniers jours de fête. Donc, comme les derniers jours de fête, pas de Hallel en entier pour la raison qu'on a évoquée. Donc, aussi pour les jours de demi-fête, pas de Hallel en entier. Et puis, il y a une autre explication très remarquable que j'ai vue dans un livre qui s'appelle Pessar Betzion de Rav Benzion Mutsafi, qui explique que l'obligation de manger de la matzah, c'est uniquement le premier jour. Alors que les autres jours, bon bah si on veut, on peut manger la matzah, mais on n'a pas d'obligation. Et donc c'est pour ça qu'on ne fait pas la bracha de la chilat matzah tous les jours sur la matzah, seulement le premier soir. Alors le premier jour, on dit le hallel à profusion, une première fois à la synagogue, une deuxième fois dans le cadre de la Haggadah, et donc avec deux premiers paragraphes avant la consommation de la matzah comme mitzvah, et le reste du hallel à la fin du repas, une fois qu'on a consommé la matzah et la ficoman. Et donc trois fois, donc une deux fois le soir et une fois aussi le matin, évidemment. Mais il n'y a plus d'obligation après ce jour. Voilà pourquoi le hallel n'est pas récité en entier pendant tous les jours de Pessah. Pas récité en entier, mais il y a des passages qui sont particulièrement forts et puissants, comme Ma'ashiv l'Hachem.
Lecho, lecho, es Bach Zeva.
Même si l'allèle n'est pas lu en entier, il doit être lu mot à mot, en chantant, en essayant vraiment d'y mettre toute sa ferveur. Parce que le plus important, c'est pas de le lire en entier ou pas, enfin, ça dépend des jours, mais c'est vraiment de le lire avec la plus grande attention et la plus grande ferveur de remerciement à Hachem. L'allèle, cette suite de psaumes, depuis le psaume 113 jusqu'au 118, c'est-à-dire, heureusement qu'il n'y avait pas le 119 dans le Hallel, parce que là, on aurait craint, parce que 119, 176 versets. Non, ça s'arrête juste avant. C'est intéressant. Le Hallel, cette suite de psaumes, qui sont des psaumes, mais qu'on ne peut pas lire n'importe comment en qualité de Hallel. On peut pas le faire tous les jours, le Hallel. Il faut faire attention. Là, c'est parce que c'est les fêtes. C'est pour ça que ça se fait. Mais sinon, on n'a pas le droit de faire le Hallel tous les jours en tant qu'Hallel. Mais lire ces psaumes en qualité de psaumes, on peut. Et donc, ça va donc du 113 au 118 de cette suite de psaumes fabuleuses. Bon. Je vous donne deux rendez-vous. Un cet après-midi à 15h05 comme d'habitude, comme toutes les veilles de Shabbat. Mais je vous donne aussi un autre rendez-vous la veille des derniers jours de Pessah, dimanche, vers 15h, on fera aussi une émission spéciale pour les 7e jours de 7e et 8e jour de Pessah, les Acharon shel Pessah, Shvi shel Pessah, le 7e jour et les derniers jours de Pessah, parce que c'est encore la tradition, veille de fête, d'une émission spéciale pour les derniers jours. Pour l'heure, je vous souhaite, dans l'ordre, Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom Mevorar, évidemment, Moadim et Simcha, Chag Sameach.
Radio J.
Radio J.
Le 10-11.
Le 10-11.
Liz Goodman.
Radio J.
Radio J. Le commentaire de la Haftara, présenté par Franklin Ruski, doyen de l'Institut universitaire d'études juives, Elie Wiesel, et auteur du livre Le complexe de Samson aux éditions Hermann Franklin Ruski. Bonjour, aujourd'hui, ce soir et demain, nous célébrons Shabbat Pessah.
Bonjour Lise, le Shabbat de la fête de la Pâque, Shabbat Chag HaPessah, la tradition prescrit la lecture publique d'un livre qui symbolise pleinement la joie et les bonheurs qui accompagnent ces jours de réjouissance et de délivrance. Shir HaShirim, le cantique des cantiques, incontestablement c'est le texte le plus joyeux des 24 livres de la Bible. Ce chant est attribué au roi Shlomo, Salomon. Le Midrash explique ainsi cette référence salomonique. Quand un homme est jeune, plein de vitalité, de santé et de bonheur, il exprime sa joie de vivre en écrivant des poèmes où il chante l'amour et la tendresse du fiancé et de la fiancée. Ainsi, Salomon, au printemps de sa vie, dans sa jeunesse, écrit le Shir HaShirim, le cantique des cantiques, pour célébrer la réjouissance des jeunes amoureux, un pour l'autre. Or, pour beaucoup des sages de l'Antiquité hébraïque, ce cantique n'est pas un texte sacré. Il est un livre profane qui parle d'un amour profane, certes légitime et noble, mais finalement sans contenu religieux, sans aucun contenu mystique. Mais un grand savant du IIe siècle, Rabbi Akiva, conteste cette vision. Pour lui, Shir HaShirim est une allégorie de l'amour mystique de l'Éternel pour la maison d'Israël et de l'amour de la maison d'Israël pour l'Éternel. L'Éternel est représenté comme un fiancé amoureux, fidèle et passionné de sa promise, la maison d'Israël. Au moment où dans la ville de Yavne, les sages devaient établir la liste des livres sacrés, Ils sont suivis l'avis de Rabbi Akiva qui disait « Tous les livres de la Bible sont saints, Kedoshim. Mais le cantique des cantiques Shirachirim, c'est le Kedosh HaKedoshim, les saints des saints, la forme parfaite, définitive, magnifique de l'alliance du Créateur et de son peuple. » Shabbat Shalom et Chag Sameach.
Pessah Sameach, Franklin Roski.
Le Forum Radio J. Retrouvez tous les dimanches à 14h10 le Forum Radio J, l'émission politique historique de Frédéric Aziza. Le Forum Radio J de Frédéric Aziza, c'est tous les dimanches à 14h10 uniquement sur Radio J.
Radio J.
Radio J.
Votre programme revient dans moins d'une minute. Radio J.
Le 10-11 de Lise Gutmann vous a été proposé avec le concours du Centre d'art et de culture et du FSJU. Le Centre d'art et de culture, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz and Klezmer. Toute la programmation est sur culture-juive.fr. Radio J. Le 10-11.
Radio J.
Lise Gutmann.
Merci à toutes et à tous d'avoir été fidèles au 10-11 de Radio J. À 11h sur radioj.fr, vous retrouverez un nouveau journal. Et de la part de toute l'équipe et de moi-même, Shabbat Shalom.
Sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J.